Je misais pas énormément sur ce livre et pourtant, prenez un grand verre d'eau pour cet after. Je crois que c'est la meilleure boisson qui pourra nous accompagner parce que ça va être plein de up and down. C'est tout de suite, c'est l'after. Hello la team, bienvenue dans ce nouvel épisode After de la bande de livres. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, pas top top, pour être très honnête. C'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. Et c'est pas de mon fait pour une fois, j'ai pas fait un petit caprice pour avoir un épisode parfait, etc. Non, cette fois-ci j'ai un peu perdu tous mes dossiers qui concernaient la bande de livres parce que mon disque dur m'a tout simplement lâché. Donc voilà, je me retrouve à retourner cet épisode alors que j'avais presque fini le montage, il était limite prêt à être posté, il me restait le teasing et quelques minutes de fin. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on va le retourner dans la joie et la bonne humeur parce que j'ai plein de choses à dire, comme d'habitude. Pour vous amener un petit peu le livre et vous teaser un petit peu tout ça, je peux vous dire que cette romance est une Enemies to Lovers, qu'elle a fait partie du premier épisode du podcast. Cet épisode concerne Try Baby de Lou Marceau. Pour rappel, le format after de ce podcast, c'est un moment où je donne mon avis après la lecture d'un livre. Alors oui, il y a du spoil et oui, c'est très subjectif, mais ne vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, on aura une première partie sur la présentation du livre de l'auteur et toutes les informations que je jugerai nécessaire de vous partager pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Et puis juste après, on basculera dans le moment juicy, le moment où je vous donne mon avis bien plus détaillé, mais vous serez prévenus dès qu'on passe d'un moment à un autre. Vous pouvez aussi retrouver mon avis sans spoil sur le compte Instagram avec la note attribuée à ma lecture. Try Baby est une jolie new romance Enemies to Lovers écrite par Lou Marceau, auteure française. Elle a écrit une mini-série composée de 2 tomes appelée Le Roman de Romy. Peut-être que d'autres la connaissent davantage sous le nom de Lisa Mars, qui est aussi son pseudonyme. Je pense que Lisa Mars c'est son pseudonyme et Lou Marceau son vrai prénom. Et sous le pseudonyme Lisa Mars, elle a écrit son roman qui s'appelle Lily the Kid. C'est une romance dans laquelle on rencontre donc Lily, qui est plus jeune et qui était secrètement amoureuse d'un fameux Simon. Et qui, des années plus tard, tous les deux se retrouvent, Simon étant devenu une rockstar entre-temps. Je crois qu'elle a un petit truc avec les rockstars finalement, puisque même dans Try Baby, on retrouve Tadzio qui est une rockstar. Je vous lirai le synopsis juste après. Mais sachez que ce livre, donc Try Baby, a été publié en 2021, mais il est apparu d'abord sur Wattpad fin 2020. Et d'ailleurs, il est toujours disponible sous le pseudonyme Lou Marceau sur Wattpad. Mais je pense qu'on doit être quand même loin de la version finale. J'ai pas relu le livre sur Wattpad, mais écoutez, je pourrais me le noter et me mettre dans ma pile à lire Wattpad. Pourquoi pas, et comme ça je pourrais vous dire si ça en vaut la peine de l'acheter pour le lire ou la version Wattpad est assez fidèle. Donc pour ma part, j'ai lu le livre au format poche, sans compter les petits bonus de la fin, donc notes de l'auteur, playlist, etc. Le livre fait 535 pages et tout de suite je vous laisse avec le synopsis. Tadio Stedman est une star internationale du rock qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste, surtout quand il s'agit d'une jolie femme. Svetlana Lukic est une jeune chirurgienne, brillante et habituée à se battre pour réussir. Elle n'est pas du tout attirée par les hommes et a, au contraire, appris à mener sa carrière sans eux. Ils n'auraient jamais dû se côtoyer, mais Svetlana est celle qui doit opérer le grand-père de Tadio. Leur première rencontre se passe plutôt mal, mais quand Tadio accepte de rendre un énorme service à la jeune femme, ces deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer et peinent à se supporter vont bien devoir composer et aller au-delà des apparences. Elle n'est pas juste une jolie fille qu'il pourrait draguer sans subtilité. Il n'est pas seulement cette star superficielle et agaçante qui se plaît à livrer aux médias. De concerts de rock en moments plus intimes, de balades dans New York en soirée en duo, ils vont apprendre à se connaître, à s'apprécier et à devenir amis sans jamais cesser de se défier. Défi, amour et rock'n'roll. Attention pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à vous arrêter ici. Mais bien évidemment, dès que vous aurez lu le livre, on se retrouve à ce même endroit, pour reprendre cet épisode et le terminer. Alors franchement, quand j'ai vu le livre, j'étais pas emballée plus que ça, parce que je me suis dit, c'est encore une histoire avec une rockstar. Vous voyez les téléfilms? Et oui, je parle souvent des téléfilms. Guys, mon petit péché mignon, c'est que j'aime trop les petits téléfilms de M6, même si maintenant ils ont enlevé ça pour mettre des documentaires. Mais Oh, les petits téléfilms de Noël, ma base. Clairement, ma base. Et vous voyez, eux aussi, ils ont leur péché mignon. Les téléfilms, ils aiment trop leur star de country. Alors ça, avec leur petite guitare et tout, ils aiment trop ça. Et ben nous, dans les romances, on aime trop les rockstars. On aime trop les rockstars, et cette fois-ci, une guitare non pas acoustique, mais électrique. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup le R&B, parce qu'à chaque fois que je peux caler une petite musique de R&B sur mes stories, je le fais avec grand plaisir. Et j'aimerais bien qu'un jour, on tombe sur un livre et que ça soit un chanteur, vous voyez. Pas une rockstar, un chanteur avec tous les codes du R&B qui gravitent autour, qui fasse monter la fan sur la scène, etc. Je m'y vois grave. Je sais pas ce que ça pourrait donner en livre. Mais pourquoi pas un jour, parce que les rockstars, on est un peu fatigués, en fait. Je pense que j'ai déjà lu au moins 4 livres avec ce type de personnage, dont une que je vous conseille fortement qui s'appelle Backstage With You de Clolomy, que j'ai lu sur Wattpad et aujourd'hui ça a été édité en maison d'édition. Je ne sais plus laquelle, mais je vous conseille vraiment ce livre. Du moins, ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, mais j'ai toujours un bon sentiment par rapport à cette lecture. Et je me souviens l'avoir énormément apprécié. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas, je mettrai aussi un petit lien vers la page Wattpad pour retrouver les quelques chapitres qui sont disponibles. Enfin bref, tout ça pour dire que le rocker, la rockstar, c'est du vu et du revu. Et en plus, très souvent, j'ai pas eu encore d'histoire où c'était la fille qui avait ce rôle de rockstar. Et ça aurait pu être intéressant. Là, je serais un peu plus hypée à lire ce livre si les rôles étaient inversés. Mais je me suis dit d'un autre côté, ok, ça peut être quand même une bonne lecture parce qu'on est dans un cadre médical. Je vais vous rappeler une énième fois que Grey's Anatomy est ma série préférée. Donc j'étais un peu matrixée et je me suis dit, est-ce que je peux vraiment résister ? En réalité, c'est le deuxième livre que j'ai lu et qui mêlait ces deux caractéristiques, à savoir une rockstar et la chirurgienne. Et l'autre roman s'appelait Sentiment d'urgence, si vous voulez tout savoir, mais ça n'a pas été du tout ma meilleure lecture. Enfin, c'était pas fou, quoi. Mais les deux m'ont été recommandés par la même personne, à croire qu'elle sait très bien mes goûts maintenant et elle sait quel type de livre je lis. Et j'ai préféré de loin Try Baby. Je pense qu'il y a des choses quand même à redire, c'est pas non plus ma meilleure lecture. Je vais vous dire la note que j'y ai attribuée, mais ça a été quand même une bonne lecture et je crois que c'est beaucoup dû au rythme. Bon, le rythme, ça veut tout et rien dire. Il y a plusieurs éléments qui rendent vraiment la lecture fluide et qui nous accrochent tout le long. On est dans une structure de livre qui est maintenant la norme dans une romance, c'est-à-dire qu'on a les deux points de vue qui s'alternent entre le protagoniste masculin et la protagoniste féminine. Déjà, ça donne du dynamisme à la lecture, mais voilà, il n'y a rien de nouveau, on y est habitué, donc ce n'est pas le point fort de ce livre. Il y a quand même le fait que les chapitres ne soient pas très longs, donc ça aide aussi à donner un certain rythme et dynamisme à la lecture, mais quand je vous parle de rythme, c'est vraiment dans la fluidité que j'aimerais mettre l'accent, parce que la manière d'écrire de l'auteur, et plus particulièrement ses transitions, est vraiment très intéressante. Lou Marceau nous amène d'une scène à une autre par l'écriture. Et je trouve que tout le monde ne sait pas faire ça. Aujourd'hui, on rencontre souvent des cas de figure où on a des ellipses de temps. Et l'ellipse de temps, on a une petite icône très mignonne, un petit dessin pour nous dire « attention, là, on a sauté du temps ». Ou on a carrément certaines personnes qui réécrivent date, lieu pour nous resituer. Ou sinon, tout simplement, on change de chapitre et il y a une ellipse de temps. Là, Lou Marceau, elle arrive à nous connecter deux scènes avec une petite phrase qui va faire une transition. Et je trouve que ça allège la lecture et qu'on passe d'un moment à un autre, encore une fois, très facilement. Je vais vous donner quelques petits exemples, comme ça vous allez mieux comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Pour le contexte, on est chapitre POV Svetlana. Elle se rend au café du coin où sa sex-friend Erin travaille. Et Erin est accompagnée de Tadzio qui se dragouille au bar, etc. Et on est donc à la page 55 et c'est un dialogue entre les trois personnes. Svetlana commence en disant « Oh, je ne m'inquiète pas, Tadzio. Vous vous souviendrez de mon prénom. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en serbe, ça veut dire celle qui n'a jamais accepté de dîner avec vous. Amusant, n'est-ce pas ? Moi, en tout cas, même si je ne le montre pas, je m'amuse. » Beaucoup, à entendre le rire franc et profond qui jaillit spontanément de ses lèvres, ferme, lui aussi. Lancée, je me tourne vers Erin. Je t'appelle ce soir quand je sors, ça te dit ? Elle opine du chef pendant que nous échangeons le café qu'elle m'a préparé avec la monnaie que je lui tends. T'as dû au plaisir de vous croiser tout à l'heure, j'imagine. Je garde mon large sourire à peu près tout l'après-midi. Le fait de ne plus apercevoir Tadio, même si j'étais prête à en découdre, doit sans doute contribuer à ma bonne humeur. Ma consultation se passe très bien. Je revois deux patients que j'ai opérés et qui se portent parfaitement. En prime, le ciel sur New York a été dégagé toute la journée, me confirmant que je vis bien mon rêve éveillé et que toutes ces années de travail voulaient vraiment le coup. Je suis donc dans une forme olympique lorsque j'envoie un SMS à Erin. Vous voyez ici, on est passé d'une scène où on était dans le café à... Elle a passé son après-midi en chirurgie et puis le retour chez elle où elle envoie un message à Erin. Et ça se fait hyper fluidement. Je sais pas si ça se dit fluidement, mais en tout cas c'est hyper fluide. Et c'est grâce à ces petites phrases de transition qu'en fait tu lis super rapidement le livre et tu vois pas le temps passer en fait. C'est exactement ça, tu vois pas le temps passer. Un autre exemple, page 221, chapitre toujours POV Svetlana, c'est le moment où elle dit au revoir à ses amis qui sont venus pour son anniversaire et en même temps... parce qu'il y avait un gala de charité organisé par sa clinique privée. Donc on est page 221. Je les embrasse tous une dernière fois et regarde partir leur voiture avec un méchant pincement au cœur. Mon programme du jour au bloc est heureusement tellement chargé que rien ne m'en distrait. Ni la tête morose de Paul qui a déjà dû avoir vent de ma présence si discrète au concert de vendredi et me salue d'un air constipé, ni le cafard de savoir les filles déjà rentrées en France quand je finis d'opérer en plein milieu de l'après-midi. Ni le désir perturbant de Tadio Steadman, etc., etc. Là encore, vous voyez, on est passé d'une scène où elle était, je crois qu'elle prenait un hélicoptère pour rentrer, un jet, je sais plus, mais on est passé du moment où elle les a accompagnées et qu'elle était limite sur la piste d'atterrissage, ou de décollage plutôt, à elle est rentrée à la clinique et elle a travaillé. Et tout ça tient sur un petit paragraphe. C'est vraiment un petit paragraphe et ça s'étale pas sur des pages et des pages. Je pourrais vous citer d'autres passages parce qu'il y en a. Il y en a même tout le long du livre. Mais le but, c'est pas de relire le livre en direct sur le podcast. J'espère juste que vous avez compris avec ces deux exemples qu'est-ce que je voulais souligner dans la fluidité et dans les transitions écrites par Lou Marceau. Et pour moi, c'est vraiment l'un des points forts du livre parce que au final, je l'ai lu quand même assez rapidement. Mais il y a quand même un second point qui s'apparente toujours au rythme, c'est évidemment la relation entre Svetlana et Tadio. C'est du up and down, c'est chaud, c'est froid, c'est très taquin, il y a pas mal de péripéties quand même dans le livre qui relance cette histoire. On n'est pas non plus sur en plein milieu du livre, t'as le cœur en miettes parce que trahison ou quoi, mais l'auteur nous donne à chaque fois de la matière pour qu'on ne décroche pas, qu'on ne s'ennuie pas, qu'on n'ait pas une relation platonique en fait. Et c'est ce que je reprochais un petit peu dans Campus Drivers, le tome 1. J'en parle dans mon premier épisode after du podcast, donc si vous avez lu ce premier tome des Campus Drivers, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode qui est dédié à ce livre. Mais je trouvais que finalement, la relation entre Louise et Lane est très longue à venir et qu'il se passe un peu rien, tout est trop slow. Et là, dans Crybaby, on fait vraiment monter la pression entre les deux personnages. On a vraiment quelque chose qui s'installe petit à petit. Et c'est aussi ce que j'aime dans les Enemies to Lovers, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas directement amoureux ou... Non, il y a tout le travail autour de leur relation et on voit la plupart du temps assez bien l'évolution. Ça ne tombe pas dessus. En tout cas, le fait qu'il y ait des rebondissements, parce qu'au fur et à mesure, on nous donne vraiment des éléments. Et je vais un peu vous lister, non pas dans l'ordre, parce que je ne me rappelle plus très bien, mais je vais vous lister toutes les péripéties en fait, qui relancent l'histoire entre Tadio et Svetlana. Déjà, on a l'un des premiers rapprochements dans l'ascenseur, même si ce n'était pas un truc de fou pour moi. Ça fait partie quand même des premiers rapprochements. On a Tadio qui couche avec Erin. Pour moi, c'est un truc de fou, puisque Erin, c'était quand même la sex friend de Svetlana. Le premier date avec les hot dogs après qu'ils aient fait leur petit accord. Le concert caritatif, bien évidemment, où Tadio tente de faire monter Svetlana sur scène, mais c'est pas ça le plus important dans ce concert caritatif. C'est la première tension, haute tension, je dirais même, dans la loge après le concert, où ça s'effrite un petit peu et on en parlera, guys, on en parlera, donc je vais pas m'éterniser sur celui-ci, mais on a cette partie-là qui est vraiment à noter. On a l'agression de Svetlana, évidemment, le problème avec les paparazzi, et ça, je trouve ça hyper bien, parce que je trouve que dans certains livres, on a des rockstars, mais pourtant, les paparazzis ne sont pas assez exploités. Je trouve que c'est limite si nos rockstars, là, c'est pas des personnes un peu lambda qui peuvent se balader comme ça dans la rue, tranquillement, qui a pas des fans un peu crazy. En fait, vous voyez, j'aimerais bien un livre où on ait un peu une histoire comme Justin Bieber avec les paparazzis qui est toujours... Ou Britney Spears, waouh. Ou une histoire comme Britney Spears et qui nous montre un peu l'envers du décor de... d'être une célébrité, que la personne, elle le vive quand même assez mal. Ça serait hyper intéressant. Et qu'on ait vraiment une présence des paparazzis, mais pas juste, oui, on est au restaurant, ah, oh, il y a des paparazzis, oh, faut qu'on sorte derrière. Bon, ça serait bien, mais pas juste ça, en fait. Ouais, j'aimerais bien une petite romance bien dramatique à la Britney. Ça peut être hyper intéressant. Ensuite, pour continuer dans la liste, on a la cohabitation. Bien évidemment, la cohabitation entre Svetlana et Tadio. La tournée, mais c'est pas seulement la tournée, c'est le ghosting de Tadio pendant la tournée. L'ex de Svetlana qui revient. Guys, j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Quand elle est venue, elle m'a tellement énervée en plus Svetlana à ce moment-là. Mais anyway. Et on a aussi le match de basket qu'ils vont voir ensemble et tout. Enfin, assez mignon ce moment-là. Franchement, j'ai pas tout listé, mais il y a de quoi quand même nous tenir jusqu'à la fin. Surtout qu'il craque pas tout de suite, comme je vous ai dit, il y a vraiment cette montée en pression. Et c'est sûr que si on comptait sur Tadio, ça se serait fait très rapidement. Mais comme il faut faire face au caractère assez dur de Svetlana, ça se passe autrement. Et d'ailleurs, en parlant de Svetlana, on va en toucher deux mots. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas mon personnage préféré. Je pense même que je préfère Tadio à Svetlana. Mais... Svetlana, il y a pas mal de choses à dire quand même. Et qui sont assez intéressantes. J'ai l'impression que je dis toujours ça. C'est intéressant. Mais oui, c'est pertinent, je trouve. Et la première chose qui la concerne, c'est sa force de caractère. On aime bien ce genre de personnage féminin qui est très affirmé, qui tient tête et qui est complètement indépendante. Et dès le début, elle nous donne le ton. Clairement, elle nous dit, page 18, « Mais j'enrage intérieurement de devoir encore une fois me justifier parce que je suis jeune et probablement beaucoup trop jolie avec mon allure de fille de l'Est, en toute humilité, croyez-moi, pour être crédible à ce poste dans un milieu professionnel éminemment macho. » Voilà, aujourd'hui, on est assez habitué à avoir un peu plus de femmes caractérielles, comme on dit. Je pense qu'on est plus surpris de voir une femme épanouie, seule, indépendante, vraiment débrouillarde et libre de tout ce qu'elle fait dans les livres, du moins, parce que voilà. Et ça fait toujours plaisir à voir, mais ce passage, il soulève vraiment un phénomène complètement actuel. Les gens, pour ne pas dire les hommes, n'arrivent pas à donner du crédit à une belle femme dans un environnement professionnel. C'est comme si c'était soit juste belle et tais-toi. Déjà, mais c'est surtout, c'est soit t'es belle, soit t'es intelligente, mais tu peux pas être les deux. Alors que les caractéristiques sont complètement indépendantes l'une de l'autre. On peut complètement être les deux et ça arrive même très souvent. Mais c'est encore du mal à monter au cerveau des gens. Et je sais pas si vous suivez l'influenceuse Sally ou vous voyez qui elle est. Pour vous la présenter, c'est donc une influenceuse lifestyle, bon vous savez lifestyle on met tout et n'importe quoi dedans mais elle fait partie de cette catégorie là, mais c'est surtout que elle parle de sujets très sérieux sur ses réseaux sociaux, des sujets d'actualité, même de politique, et elle vient en fait vulgariser tout ça, les expliquer avec des mots très simples, et surtout elle vient mettre quand même, bon c'est pas la seule à faire ça, mais je dirais qu'elle met en lumière certaines situations à travers le monde, pas sous silence des grands médias. Elle est juriste, diplômée de droit pénal, si je ne me trompe pas. Bref, vous avez compris le profil, c'est une femme très intelligente et il s'avère qu'elle est aussi très belle. Et lors d'un séjour en Côte d'Ivoire, elle a posté un réel où elle était en robe de plage. Donc c'est, vous savez, les robes crochées où on voit à travers, mais je pense qu'elle avait un maillot de bain en dessous. C'était sexy, c'était assumé, on la voyait marcher de dos, c'était je crois même un dos nu. C'était très joli à voir, mais il faut voir les commentaires maintenant. Waouh, vraiment waouh. C'était clairement de la misogynie pour moi et il y avait vraiment toutes sortes de reproches. On nous disait que les femmes ne peuvent pas s'habiller comme ça parce que son physique ne correspond pas forcément avec ce qu'elle dit, qui sont donc des sujets sérieux. Bref, je vais vous citer des exemples concrètement que j'ai vus sous ce poste-là et je pense que son réel est toujours disponible si vous voulez un peu aller checker tout ça. Je vais vous citer un premier commentaire. Après, elle viendra nous parler de la guerre ou dénoncer les incivilités. Lol, qui la prendra au sérieux après cet épisode? Tout le monde la suivait avec, pour son intellectualité et la plus personne s'intéressera à ce qu'elle va dire. Franchement, le rapport, dites-moi le rapport. Pourquoi on ne s'intéresserait plus à ce qu'elle va dire? Surtout que quand elle nous fait des réels explicatifs, là, elle n'est pas non plus, et elle pourrait très bien l'être, encore une fois, mais elle n'a pas cette même robe crochée-là. Elle n'a pas son maxi décolleté pour que certaines personnes stupides regardent juste cette partie de son corps et ne l'écoutent plus. Et je vais continuer avec un deuxième commentaire. Désolée, mais cette vidéo salit le travail d'éveil de conscience, de moralisateur et surtout de sensibilisation dont tu fais la plupart du temps. C'est définitivement un faux pas, car beaucoup de jeunes filles pourraient imiter avec des conséquences catastrophiques. Ou encore, je croyais m'être trompée de page, comme si en voulant rentrer à la bibliothèque, tu entres dans un nightclub. Genre, on souffle. Déjà, la métaphore... J'ai même pas d'autres commentaires, parce que bibliothèque, nightclub, là, bref. Et juste pour revenir au livre, pour faire le lien directement, le fait qu'il y ait écrit cette phrase que je vous ai citée tout à l'heure, donc à la page 18, noir sur blanc, et pas qu'on devine, je trouve ça appréciable, parce que des fois, les auteurs, ils veulent nous passer des messages à travers leurs livres, et c'est assez discret... C'est tout en finesse, et là, il y a écrit très clairement. Page 51, on a même, je cite, « En déplaise à tous ceux qui voudraient qu'on puisse faire carrière, qu'en étant moche. » Et voilà, encore une fois, c'est appréciable de le voir écrit noir sur blanc. Ensuite, Svetlana est une femme lesbienne. Le nombre de fois qu'elle répète ça dans le livre, je pense qu'on a compris. Et justement, je pense que c'est même elle, Svetlana, qui n'a pas compris qu'elle n'était pas lesbienne. Je pense qu'elle le répète tellement souvent et de manière tellement appuyée que déjà, ça me faisait rouler des yeux. Et surtout, j'avais l'impression que c'était une manière de se convaincre, en fait. Page 66, elle nous dit, on dirait presque qu'il chantonne ces quelques mots, les agrémentant d'un léger sourire qui pourrait sans doute être craquant si je pouvais craquer pour un homme. Plus précisément pour un homme insupportable d'exubérance et de vanité. Franchement, girl, on souffle de fou. J'ai l'impression que je vais répéter et répéter autant de fois qu'elle nous dit qu'elle est lesbienne et qu'elle veut nous prouver qu'elle est lesbienne dans ce livre. Mais c'est fatigant. Et moi déjà, en lisant le synopsis, j'ai été surprise. De voir par la suite que Svetlana était lesbienne. On nous le dit, je crois qu'on nous le dit un peu, mais j'ai pas tilté. Oui, dans le synopsis, on nous dit qu'elle n'est pas du tout attirée par les hommes et a au contraire appris à mener sa carrière sans eux. Mais vous voyez, avec le « et » qui est au milieu, bah moi, je me suis dit c'est plutôt par rapport à la carrière, qu'elle voulait, encore une fois, être indépendante, tout ça, qu'elle voulait pas compter sur un homme pour monter les échelons. Mais en fait, non, ça nous disait en fait qu'elle était lesbienne, mais j'avais pas compris. Mais guys, est-ce qu'elle l'est vraiment? Parce qu'on sait, en fait, on sait comment va terminer cette histoire, et je trouve que ça n'a pas de sens ici. À la limite, elle aurait dû être bisexuelle. Ou alors, parce que là, on comprend qu'elle est lesbienne depuis toujours. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de relation avec un homme, elle ne s'est jamais posé des questions sur... sa sexualité, pour elle, c'était obvious, elle était lesbienne. Mais en sachant que on lit une histoire hétérosexuelle entre Tadzio et Svetlana, est-ce que ça avait un sens de donner cette orientation sexuelle à Svetlana? Et je me suis carrément demandé si c'était pas insultant finalement pour la communauté LGBTQ+. Parce que dans un premier temps, t'as Tadzio qui comprend que Svetlana, qui apprend que Svetlana est lesbienne, mais qui persiste comme si finalement c'était pas une barrière, que c'était pas sérieux, et je trouve que ça décrédibilise complètement, et il y a clairement un problème, avec ça. Si on va même plus loin, le fait que Svetlana n'ait jamais eu de relation sérieuse, même avec une femme, ou si juste une fois avec son ex justement, mais que sinon c'est une fille voilà, qui batifole, ça se dit batifole, je crois, mais qui va coucher à droite à gauche, qui fait ce qu'elle veut de son corps, etc. Mais le fait qu'elle craque pour Tadzio, donc pour un homme, la célibataire endurcie qui aime exclusivement les femmes, je trouve ça insultant. Je trouve ça réducteur et c'est comme si je faisais un raccourci de fou, mais qui serait quand même légitime, où tu te dis, bah, en fait, elle trouve, elle est lesbienne endurcie, mais elle trouve, elle peut trouver que son bonheur dans les bras d'un homme. Et en fait, je trouve ça hyper dommage. J'ai l'impression que on lui a donné cette caractéristique à Svetlana juste pour mettre un petit point sur la diversité et voilà, avoir une caractéristique qui sort un peu du commun, du moins qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les livres aujourd'hui, mais qu'on voit de plus en plus. Mais je trouve que là, ça ne rapporte absolument rien à l'histoire. Elle aurait pu être hétérosexuelle, ça aurait été exactement la même chose. Ou à la limite, elle aurait dû être bisexuelle, comme ça, on a toujours l'histoire avec son ex qui revient, etc. Mais sinon, ça rapporte rien. Mais anyway, on va passer à une autre partie. Mais anyway, on va passer à un moment un peu plus chill, un peu plus joyeux, un peu plus sous haute tension. Mais vous allez voir, ça va être encore du up and down, ça va être du plus et du moins. C'est pour ça que je suis un peu mid sur cette lecture. Mais je vais vous parler de mon moment préféré. Je dois dire même mes moments préférés. Mais il y en a une première là. Si on a de l'eau bien fraîche à côté de nous, c'est exactement pour ce moment-là, parce que la température va grimper. Elle va monter en flèche. Alors, c'est pas vraiment ma scène préférée, mais il fallait qu'on en parle, parce que ça reste mon rapprochement préféré, disons ça comme ça. Chapitre 19, ouvrez votre livre. On est donc pendant le gala de bienfaisance, retour à la loge, après que Tadio ait essayé d'inviter Svetlana à monter on stage, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et Svetlana est super énervée parce qu'elle est très timide et elle lui a déjà raconté qu'elle avait eu une expérience similaire où elle s'est juste figée sur scène et qu'elle n'a pas pu parler, qu'elle a paniqué, etc. Et là, waouh, genre, je ne sais même pas par où commencer, mais la tension grimpe d'un coup et il y a eu un shift dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, je me dis, mais qui peut résister à Tadio? Qui peut résister à Tadio? Et il y a exactement un passage qui m'a fait... Ah, on est page 211 et je vais vous citer ce moment-là. Et c'est donc Tadio qui nous parle. Je cite, « Quand je vous le montrerai avec toutes les armes dont je dispose, mes mains, chacun de mes 10 doigts, ma bouche, ma langue, ma peau, mon... » Ah non, la scène, elle est tellement érotique, alors qu'il se passe rien. Enfin, il la touche pas, je veux dire, il est juste là et il énumère. Et franchement, en fait, je visualise tellement la scène dans ma tête et je me dis que si c'était en version film, je vois les gros plans sur chacune des parties de son corps qu'il énumère et je trouve ça muy caliente, genre... Non, j'imagine encore mes mains, ma bouche, ma langue, c'est tellement érotique. Et cette scène, Svetlana, elle pouvait s'écrouler au sol en fait. Et limite, j'aurais voulu qu'elle craque à ce moment-là, mais je suis bien contente qu'elle n'ait pas craqué au final. Mais je l'aurais comprise, clairement je l'aurais comprise. Mais écoutez, on va prendre une petite gorgée d'eau, parce que là on va passer à un autre moment. On doit se calmer un petit peu, mais on va passer à un moment un peu plus sérieux. Et attention, trigger warning, agression. Vous l'avez sûrement deviné, je vais vous parler du moment de l'agression de Svetlana. Alors non, attention, le moment de l'agression de Svetlana, ce n'est pas mon passage préféré, ça va de soi. C'est vraiment plutôt le moment post-agression. En fait, c'est vraiment la réaction de Tadio qui m'a touchée. Et en même temps, je me dis, tout le monde devrait réagir comme ça. Déjà, lorsqu'on est encore sur les lieux de l'agression, on voit que Tadio, il est vraiment... impliqué et qui veut vraiment la sécurité de Svetlana avant toute chose. Il lui dit, dès que la sécurité viendra récupérer ce gros tas de merde, je te ferai un putain de câlin pour vérifier que tu es bien vivante. Page 397. Et mon cœur, juste quand il a dit ça, mon cœur il s'est brisé. Parce que déjà, l'agression, j'étais un peu sous tension et j'étais très surprise en fait déjà de cette agression, qu'on se le dise. Je trouve que ça sort un peu de nulle part, mais bon, on va rester focus sur la partie post-agression. On voit qu'il pense vraiment à elle, à son bien, avant ses propres émotions. Et j'ai eu quand même un petit point d'interrogation sur les réactions de Svetlana. Parce que on voit qu'à plusieurs reprises, elle essaie de le faire craquer, elle veut l'embrasser. Mais D'un côté, je me dis, girl, juste prends du temps pour toi, repose-toi. Ton corps, il a été éprouvé, ton cerveau, il a été bousculé. Je pense que tu es en état de choc et tu dois juste redescendre. Mais de l'autre côté, bien évidemment, déjà, que chacun réagit de sa propre manière et que toute manière de réaction n'est pas à juger. Mais je pense que de l'autre côté, comme je disais, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin d'être touchée pour remplacer les mains sales de Paul. Elle avait besoin de remplacer ces images atroces qui, je pense, tournaient dans sa tête. Et elle avait juste envie de se faire désirer, de se sentir toujours autant femme et autant séduisante. Et pas seulement dans les yeux dégueulasses là, du Paul. Et quand elle lui demande « Vous n'avez plus envie de moi ?» ou encore « Je vous assure que sous ces vêtements informes, il y a encore un corps de femme. » Je ressens vraiment qu'elle avait envie de se sentir juste vivante et pas comme une victime. Et Tadio aurait pu craquer. Il aurait pu craquer dans le sens où il en avait envie, il en a toujours eu envie. Et il lui a dit justement que bien sûr qu'il avait toujours envie d'elle et que ça n'a pas changé. Mais je pense que, en fait, j'aime la position qu'il prend à ce moment-là, qui est qu'il sait que dans sa condition d'homme, c'est pas ce qu'il faut à Svetlana, mais il faut plutôt juste être une épaule de soutien et juste une personne qui est là pour l'aider. Et, mais malheureusement, entre guillemets, hein, c'est un homme et là, ça peut être plutôt traumatique pour elle de flancher. Le fait qu'il veuille même pas dormir avec elle, pour encore une fois, pas la bousculer, pour s'assurer qu'elle va bien, et il va juste se retenir, et il respecte le potentiel espace dont elle aurait besoin, il est prêt à se faire rembarrer, etc. En fait, il en fait pas quelque chose de personnel, et il sait juste que là, il prend conscience des choses bien avant elle, et voilà, je trouve sa réaction très bien écrite dans cette histoire. Je trouve que toute cette scène post-agression m'a attendrie et je pense que ça s'entend même à ma voix là en reparlant de ce passage-là. Mais c'était une bonne manière, enfin une bonne manière, on s'entend, hein, de redescendre en pression après un trop-plein d'émotions, donc après cette agression. Et après, si je dois quand même émettre une critique négative, je trouve que Svetlana, bien que tout le monde réagit à sa manière, je trouve que Svetlana s'en remet un peu trop facilement, ou du moins, dans le texte, on n'en reparle plus. On passe complètement à autre chose, comme si ça n'avait jamais existé. Et j'ai l'impression que, là encore, ça joue trop sur son caractère, femme forte, indépendante, etc. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'elle peut en fait avoir des failles, malgré qu'elle représente toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et que finalement, cette agression, elle sort un peu de nulle part. Et si on l'enlevait du livre, bah, encore une fois, ça ne changerait rien. Mais écoutez, guys, on va voir ce que vous en avez pensé, parce qu'on passe tout de suite à la partie commentaires. Alors, normalement, vous savez, je prends 3 commentaires dans des sites différents. Mais là, je suis tombée sur un long, c'est pas un pavé. Vous voyez, si on déroule une liste, ça glisse par terre. C'est tellement un long commentaire que j'ai décidé de le sélectionner et de le diviser en 3 parties, sachant qu'il y a 9 paragraphes et que j'ai pas repris tous les paragraphes. Et on va commencer avec la première partie qui est, accrochez-vous, assez longue.
Première partie. J'étais vraiment hyper emballé par le pitch de départ de Try Baby de Lou Marceau. Ne connaissant pas encore la plume de l'autrice, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cela. D'autant que les avis sur ses autres romans étaient bons. Lorsque j'ai commencé ma lecture, je dois avouer que je n'ai absolument pas accroché au personnage. D'abord, Tadzio. Nous sommes sur le cliché du mec célèbre, qui obtient toutes les femmes qu'il veut et n'accepte aucun refus. Si bien que lorsque nos deux personnages se rencontrent dans le cadre professionnel lors de la consultation du grand-père, Tadzio se montre comme on s'y attend, en véritable connard, jugeant la jeune femme inapte à cela, pour ensuite la draguer de façon si déplacée que cela perd tout son charme. Alors bien sûr, avoir son point de vue, alternativement avec l'héroïne, peut avoir un aspect positif, quand on apprécie celui-ci, mais pour le coup, ça a été tout l'inverse avec moi. plus je suivais ses pensées et plus j'étais blasé de ce genre de personnage. Il ne pense qu'à se faire Svetlana, et comme je vous le disais plus haut, le refus, il ne connaît pas. Le mot « non », non plus d'ailleurs. Nous sommes donc dans le cliché du mauvais garçon, qui pousse l'héroïne dans ses retranchements pour lui prouver physiquement parlant qu'elle est tout aussi attirée par lui. Double challenge pour lui, il espère bien la faire virer de bord.
Bah, en fait, je suis complètement d'accord en fait avec cette partie-là, parce que, bon, déjà, c'est vrai qu'au départ, surtout au départ, parce que je trouve qu'à la fin, j'ai pas forcément cette image de lui, mais Tadzio, il se détache pas des clichés d'une célébrité, arrogant, presque capricieux, ok. Mais par rapport à Svetlana, c'est vrai que sa séduction est complètement déplacée, puisqu'elle lui dit « je suis lesbienne » et que ça aurait dû l'arrêter. Et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est gênant, en fait. C'est juste malaisant. Il n'y a pas plus gros frein, normalement, que ça. But anyway, on passe à la deuxième partie.
Deuxième partie. Face à lui, nous avons donc Svetlana. Au début du roman, j'ai cru que j'arriverais à l'apprécier, vraiment. Mais non. La partie professionnelle n'est, à mon sens, pas assez exploitée. Ce qui est dommage, car il y avait matière à... Ensuite, j'ai été assez surprise. L'héroïne nous explique au travers de ses relations, bref, qu'elle est lesbienne et certaine de son orientation. Elle dit elle-même s'intéresser davantage aux femmes que Tadzio pourrait mettre dans son lit qu'à lui tout court. Bon, pour le coup, je ne m'attendais pas à du FF. Ce n'est pas ce que je recherche dans une lecture, donc, premier point négatif. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Non, en fait, j'ai été dérangé par les pensées et le comportement de Svetlana. À l'image de Tadzio qui saute sur tout ce qui bouge, Svetlana, c'est la même, mais au féminin. Pour le coup, je n'aime ni l'un ni l'autre. D'autant que celle-ci nous rappelle très régulièrement, sur un court laps de temps, qu'elle n'aime que les femmes et rien d'autre. Au vu du résumé et de la romance évidente qui arrive entre Tadzio et elle, j'aurais trouvé plus logique qu'elle soit bi et le dise clairement, plutôt que nous rabâcher qu'elle ne s'intéresse absolument pas aux hommes. En fait, elle cherche désespérément à se convaincre elle-même dès leur rencontre et ça, je trouve ça dommage.
Là encore, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Franchement, Svetlana, le fait qu'elle répète tout le temps qu'elle aime les femmes, flemme. Personnellement, j'ai pas non plus accroché à 100% avec le personnage féminin. Et même les autres, j'ai pas eu un personnage où vraiment j'ai été prise d'affection. Concernant la médecine, je sais pas quoi en penser parce que, ok, je suis très contente qu'on soit dans un secteur médical, voilà. Mais est-ce que ça aurait été nécessaire de vous décrire une opération ? Je ne pense pas. Par contre, oui, il y avait de la matière à exploiter sur l'environnement médical. Et pour moi, la première chose dans cette histoire, c'est qu'ils auraient encore plus joué avec le rôle du grand-père de Tadzio. Et donc, l'erreur, c'était vraiment qu'il n'aurait jamais dû faire sa convalescence ailleurs et il aurait dû vraiment le faire à la clinique. Et on va reprendre avec le dernier paragraphe qui n'est pas la conclusion de son message, mais c'est les derniers arguments que je trouve intéressants dans son commentaire.
Troisième partie. Pour tout vous dire, je n'ai pas non plus spécialement accroché au style de l'autrice. Certaines phrases étaient parfois très longues et j'avais la sensation de ne pas arriver au bout et de devoir relire pour ne pas perdre le fil. Et d'autres fois, ce sont plutôt les expressions qui m'ont quelque peu laissé perplexe. Des chevilles nerveuses, des voix sinistres et lugubres. Un mélange d'un peu tout à fait que je n'arrivais pas à me mettre dans l'histoire et adhérer à celle-ci. À tel point que je me retrouvais à flâner sur mon téléphone au milieu d'un chapitre, alors que je coupe généralement les notifications pendant que je lis. Au bout d'une quinzaine de chapitres, force est de constater que je n'y arrivais pas. Je suis donc allé volontairement lire les derniers chapitres pour voir si cela me donnait envie de poursuivre ma lecture. Ainsi, j'ai lu une centaine de pages de plus, mais en vain. Non, même la fin ne m'a pas plu du tout ni donné envie de pousser jusqu'au bout ma lecture. Pire encore, certains rebondissements m'ont fait l'effet d'une claque et m'ont laissé sur le cul. Quant à la fin en elle-même, bof, bof.
Pour ceux qui doutaient encore, hein, la personne n'a vraiment pas aimé lire Try Baby, mais au moins elle argumente et ça se tient. Pour le style d'écriture, moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Comme je vous ai dit, j'ai bien aimé comment elle nous amène d'un moment à un autre. Mais le point que je lui accorde, c'est au moment où elle dit « pire encore, certains rebondissements m'ont fait l'effet d'une claque ». Je pense qu'elle parle d'ici de l'agression. Et je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'on passe trop rapidement à quelque chose d'autre et que l'agression est même soudaine. On aurait dû avoir un peu plus d'interaction entre Svetlana et Paul, qu'on comprenne un peu plus. Je pense qu'elle nous dit quelquefois, oui, Paul, il avait des vues sur moi et tout, mais c'était pas assez mis en avant, je trouve. C'est pour ça que l'agression, bah, quand tu vois qu'elle arrive, tu te dis, mais ça sort d'où? Je suis pas sûre que c'était une scène nécessaire, surtout vu, bah, justement que après, ça n'est pas trop d'impact sur l'histoire et que Svetlana passe tout de suite à autre chose. Si on compare, par exemple, avec les paparazzi qui viennent devant chez Svetlana, ça, ça a un impact concret sur l'histoire puisque après, ça amène à la cohabitation. Vous voyez? Et si on enlève ce moment-là avec les paparazzi, on n'aurait pas eu de cohabitation. Là, l'agression, pour moi, c'est un peu random, quoi. Et concernant la fin, parlons-en. Je suis déçue. En fait, pour moi, ça aurait vraiment dû se terminer sur le concert où elle lui fait la surprise. Voilà, ça donne une petite vibes HSM2 où vous voyez Gabriela, elle revient vers Troy et tout en chantant sa petite chanson. Bah, voilà, ça aurait dû se terminer sur ça et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais le fait que ça soit Tadzio qui essaye de retrouver Svetlana, qui revient vers elle, alors qu'il n'est même pas en tort pour s'excuser, je trouve que c'est chiant. C'est chiant, je sais pas, j'accroche pas. Au début, vous savez, je me suis dit, ah, j'ai vraiment aimé le livre et tout. Et quand j'écrivais le script, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas tant une si bonne lecture que ça. Et c'est pour ça que je donne une note de 3 sur 5 à cette lecture. Ça reste un livre ok, je dirais, mais je pense qu'on peut quand même s'en passer, rien d'extraordinaire. Et oui, je vous ai écouté, j'avais fait un petit sondage parce que dans l'un des derniers épisodes After, je vous demandais si vous aviez envie que je note les livres et mes lectures, donc c'est ce que je vais faire maintenant et je vous dirai à la fin de tout mon débrief quelle note j'attribue à chacune de mes lectures. Et sinon, vous pouvez retrouver ma note et mon avis sans spoil sur le compte Instagram du podcast. Juste pour revenir sur Crybaby et sur la fin, on a une petite note de l'auteur, la traduction de la musique Crybaby de Svetlana et Tadzio, et encore une fois, une playlist. Bon, c'est toujours pas le moment où je vais vous parler des playlists, mais ça ne serait tardé. Et juste une petite parenthèse sur la musique. Je sais pas si elle est sortie sur Spotify ou quoi, mais ça aurait été grave un truc de sortir, d'enregistrer vraiment la musique Crybaby et de la sortir sur les plateformes de streaming. Ça aurait été grave stylé, je trouve. En termes de marketing, ça fait deux fois que j'évoque le sujet de la playlist, donc on en parlera, mais vous allez voir, on sera amené de toute façon à en parler puisque c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Sur ce, l'after continue sur le compte Instagram du podcast @bandedelivres comme d'habitude. Et je vous y attends nombreux, car plus on est fou et plus on lit. À bientôt.